7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle d'alcool, un breuvage qui fait des ravages sur la santé, ça vous le savez, grâce à l'émission Priorité Santé. Et pourtant, dans un pays comme la France, on boit beaucoup, mais le pays se mobilise finalement assez peu par rapport notamment à la drogue. Bonjour Thomas Pitrel.
Bonjour.
Bonjour Victor Legrand.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux journalistes au magazine Society et vous publiez Tournée Générale chez Flammarion, une enquête sur la France et l'alcool, autant dire un terrain miné. On a d'un côté les lobbies, c'est-à-dire les producteurs de vins, de spiritueux, les agriculteurs, les politiques aussi qui veulent préserver les centaines de milliers d'emplois, et en face les associations anti-alcool, et tout ça sur un fond d'exception culturelle. La France, c'est le pays mondial du vin, et une personne qui ne boit pas est automatiquement suspectée. On ira aussi en Corée du Sud, où Frédéric Ojardias, notre correspondant, nous expliquera qu'il est encore difficile de signer des contrats sans se saouler, mais la jeunesse commence à refuser ces pratiques. Et puis on parlera des lobbies de la bière en Afrique qui n'hésitent pas à forcer la porte des écoles pour séduire les adolescents. Et quant à vous, les voisins, quelle est la place de l'alcool dans votre vie? Est-ce que l'État devrait davantage informer, protéger les consommateurs par des réglementations? Vous nous appelez dès maintenant pour participer à l'émission au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro WhatsApp pour nous laisser des messages, mais le mieux, c'est quand même de nous appeler dès maintenant en direct. Je vous lis quelques messages publié sur nos réseaux sociaux. On a beaucoup de commentaires, hein. Thomas Pitrel et Victor Legrand, vous écrivez d'ailleurs dans votre livre que tout le monde en France a quelque chose à dire sur l'alcool, y compris les abstinents, hein. Mais c'est aussi le cas chez nos auditeurs en Afrique, ils ont des choses à nous dire. Écoutez le message de Gilbert, posté sur WhatsApp.
Je vis dans la ville de Bafoussam, une ville située à l'ouest du Cameroun en fait. Nous sommes un pays laïque. Chez les musulmans, la religion ne permet pas l'alcool. Alors les musulmans se cachent avant de boire ici au Cameroun. Chez les chrétiens, on peut boire, mais seulement si on a 18 ans. Alors moi, par contre, j'ai violé cette loi. J'ai bu un peu plus tôt. J'ai bu quand j'avais à peine 16 ans. J'ai commencé à boire quand j'avais à peine 16 ans. Peut-être, je sais pas, 2 ou 3 verres, comme ça en passant. Mais tout de même, je suis pas alcoolique. Moi, je condamne les alcooliques parce que les alcooliques, ils boivent et le lendemain, ils ne peuvent même plus aller bosser au boulot. Ils n'assument pas, ils ne sont pas responsables chez eux. Ils ne peuvent pas payer des factures. Moi, je condamne les buveurs qui sont irresponsables et les alcooliques. On peut boire, mais avec modération.
Bon, là, on n'est pas là pour condamner, hein, dans cette émission. On est là pour essayer de comprendre. En tout cas, c'est le ressenti de Gilbert au Cameroun. Écoutez le message de Faramand, d'un voisin qui poste d'Iran sur WhatsApp.
Bonjour, 7 milliards de voisins et voisines. Je vous donnais mes opinions sur la consommation de boissons alcooliques. En Iran, c'est complètement interdit à cause des idéologies, à cause d'idées religieuses. C'est complètement interdit, mais la plupart des citoyens iraniens consomment les boissons alcooliques fabriquées à la domicile par lui-même. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous.
Et merci à vous, Faramand, de poster d'Iran. Sotima est dans le nord-ouest du Bénin, à Natitingou. Il nous dit que c'est le mal du siècle. Ici, toute la jeunesse boit. Ça n'intéresse personne de savoir que l'alcool peut être dangereux. C'est le commerce le plus en vue. La provenance des boissons vendues est douteuse. Tout le monde le sait. Voilà, ça c'est le point de vue de Sotima. On a en ligne un auditeur qui est également, cette fois-ci, à Cotonou, donc toujours au Bénin. Bonjour, Johannes.
Oui, bonjour, cette manière de voisin. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour à vous et soyez le bienvenu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait ce concitoyen béninois?
Que
c'est le mal du pays?
Effectivement, bon, il ne faut pas prendre. Nous, on ne le prend pas totalement comme un mal, mais c'est quand la qualité de l'alcool est douteuse que ça constitue un mal. En réalité, les jeunes n'en font pas une addiction totale comme elle le conçoit. Mais généralement, quand moi je prends mon cas par exemple, c'est qu'on achète l'alcool de palme dans les villages et on essaie de l'aromatiser et chacun en dispose chez soi. Et lors des cérémonies ou des fêtes par exemple, tout le monde en consomme. Et c'est comme ça, ça se passe ici. Ça sert d'apéritif aussi, où lorsque tu reçois une visite, tu sers d'abord, dans la culture, tu sers de l'eau à l'invité, et ensuite tu peux lui servir, par exemple, de l'alcool.
Ah oui, d'accord, on commence par de l'eau, donc, pour le désaltérer, l'invité.
Exactement. Ouais. Et donc, après, maintenant, on peut lui servir de l'alcool aromatisé. Soit il ne boit pas, ou bien soit il va demander peut-être boisson alcoolisée.
Intéressant cette pratique. Hein. Merci, Johannes, de nous avoir appelé. On n'imaginerait pas un apéritif entre amis en France, hein, Thomas Pitrel et Victor Legrand, où on commencerait par servir des verres d'eau, non
Non, a priori, on trinque pas à l'eau en France, en tout cas.
Histoire de se désaltérer, je ne sais pas, peut-être en pleine canicule, peut-être.
Peut-être, ouais, éventuellement, et encore, on rajouterait peut-être du Ricard dedans, éventuellement. Mais non, en fait, c'est intéressant les témoignages qu'on entend, parce que c'est vrai que quand on a fait ce livre, au début, on voulait écrire un livre un peu sur le monde entier, parce que justement, on pense que la façon dont les gens boivent dans un pays de l'alcool, ou n'en boivent pas, dit pas mal de choses en fait sur la culture du pays, sur la société, etc. Et là, on le voit bien avec ces témoignages-là. Au final, on a décidé de se concentrer sur la France, parce que sinon, il aurait fallu écrire, je pense, une encyclopédie.
Ouais, mais je vais vous en lire d'autres des messages. On en a reçu beaucoup sur nos réseaux sociaux. On a un voisin qui est à Cocody, donc une commune d'Abidjan, qui nous dit l'alcool est devenu un mode de vie. On boit pour se détendre. Mohamed aussi, qui est à Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il nous dit « Moi, je ne bois pas, mais je constate que l'alcool n'est plus rejeté comme autant de nos parents. Dans toutes les couches de la société ivoirienne, on consomme de l'alcool, on en trouve à moindre coût. Et évidemment, ça fait des dégâts chez les jeunes. » Stevie est à Malabo, Guinée équatoriale. Il existe ici, nous dit Stevie, plus de bars que de boutiques ordinaires. Et les sociétés de produits alcoolisés sont exponentielles, comme quoi le malheur des uns fait assurément le bonheur des autres. Kayolo nous dit qu'au Burkina Faso, le ministre du commerce vient de prendre une mesure drastique, c'était en effet il y a quelques jours, ce mois-ci, qui interdit la vente d'alcool dans des sachets plastiques. Ce sont des sachets à tout petit prix, de petite contenance, qui coûtent quelques centimes d'euros et qui évidemment séduisent la jeunesse. Et ce sont des boissons importées ou produites dans la clandestinité. Voilà, d'ailleurs vous pouvez nous appeler si vous nous écoutez, en particulier au Burkina Faso, où il y a cette actualité et cette mesure prise par le gouvernement pour réagir si vous le souhaitez. 33 1 84 22 71 71. On parle de la consommation d'alcool et tout particulièrement aussi de la France. Est-ce que la France a un problème avec l'alcool?
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Olivier Van Biemen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un journaliste néerlandais. Vous avez publié l'année dernière une enquête, Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée. Heineken, c'est le deuxième brasseur mondial. Vous avez enquêté dans 12 pays d'Afrique, Olivier Van Biemen. Quels sont vos constats dans les pratiques pour séduire notamment la jeunesse, pour faire aimer l'alcool ?
Il y a certaines stratégies particulières pour viser la jeunesse en Afrique. Une de ces méthodes, en fait, c'est de la publicité à l'école. Et ça se fait de manière assez intelligente. Ils font de la rénovation dans des écoles proches, vraiment des écoles primaires proches d'une brasserie. Mmh. Et là, ce sont vraiment des rénovations assez rudimentaires, une petite couche de peinture fraîche. Et en échange de ça, ils mettent le logo de la brasserie. Ils ne mettent pas le logo de la bière, mais de la brasserie. Mais tout le monde fait l'association avec la bière pour, montrer aux gens que ce sont eux qui ont fait cette couche de peinture fraîche. Et là, ça fait en sorte que des jeunes Nigérians, par exemple, des jeunes Congolais, dès leur plus bas âge, dès qu'ils apprennent à lire, c'est un peu, ils ont l'impression d'être à l'école grâce à une brasseur de bière.
Il y a d'autres techniques également?
Une autre technique, c'est de faire une campagne préventive à l'école aussi. Là, c'est plutôt les 14, 16, 17 ans qui sont visés. Et là, en fait, il y a des gens de Heineken qui visitent des écoles. Ça se passe par exemple au Rwanda, pour dire qu'il ne faut pas prendre de la bière. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'ils ont de la documentation avec la marque. La marque de la compagnie aussi. Donc, il y a ce gentilhomme ou cette gentille dame de Heineken qui va vous conseiller à l'âge de 14-17 ans de ne pas prendre de la bière. Et là, il y a une règle un peu universelle. Déconseille les gens de cet âge-là de ne pas prendre quelque chose. Ça le rend d'autant plus attirant, ouais, en quelque sorte.
Mais c'est complètement vicieux comme marketing.
Un de mes constats principaux dans mon livre, c'est vraiment qu'une entreprise comme Heineken en Afrique fait vraiment ce qu'il aimerait le plus faire. Chez nous, en Europe, dans d'autres pays, il y a plus de législation, il y a plus d'application de la loi, plus de contrôle. Mais là, en Afrique, c'est vraiment, on voit ce qu'une multinationale peut faire quand il n'y a pas ces mécanismes de contrôle.
C'est-à-dire que dans tous les pays dans lesquels vous avez enquêté, dans les 12 pays d'Afrique, il n'y a pas de réglementation, notamment pour empêcher que les jeunes consomment de l'alcool, pour interdire la vente d'alcool à des mineurs ?
La plupart du temps, il y a de la réglementation, mais il est très peu contrôlé. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est en 2005, il y a l'Organisation mondiale pour la santé qui a conseillé aux pays africains où on a vu qu'il y avait des problèmes avec l'alcool qui ont augmenté. Donc l'OMS a conseillé d'écrire, de faire des politiques d'alcool, de préventives contre l'alcool. Et là, ce sont souvent les entreprises brassicoles qui ont écrit ces politiques, qui ont conçu ces politiques pour le gouvernement. Et là, ils ont vraiment fait attention à écrire, à faire une réglementation qui est très favorable pour eux. Et donc, qui mise vraiment sur la responsabilité individuelle. Et des chercheurs en santé publique ont constaté que ça ne marche pas. Les règles qui marchent, c'est de ne pas avoir des points de vente partout, c'est de ne pas avoir des horaires, des fermetures aussi. Donc, c'est plutôt dans la disponibilité.
Et de ne pas faire connaître la marque à des enfants qui n'ont aucune raison de connaître l'existence de ces produits-là.
Tout à fait. Ce qu'on voit aussi, c'est que les événements que Heineken sponsorise sont souvent des événements visés aux jeunes aussi, des événements musicaux et sportifs. Et là, il y a beaucoup de jeunes qui voient les publicités pour Heineken aussi.
Olivier Van Beemen, une dernière question. Est-ce que ces méthodes ressemblent à celles utilisées par les cigarettiers autrefois pour faire découvrir le tabac ?
Oui, je pense que l'industrie d'alcool, ils se misent à fond sur l'Afrique parce qu'il y a un peu plus d'argent qui est disponible. Pour eux, c'est un peu le nouveau paradis. Donc, je pense que la comparaison est assez juste.
Ouais, le nouveau paradis, pas pour les jeunes en tout cas. L'Afrique, en Afrique, vous le dites dans votre livre, la bière rapporte 50% de plus qu'ailleurs dans le monde. Il y a comme un problème. Merci beaucoup Olivier Van Beemen d'avoir été en ligne avec nous, journaliste néerlandais. Vous avez publié l'année dernière « Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée » aux éditions Rue de l'Échiquier. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Thomas Pitrel, Victor Legrand, vous avez publié Tournée Générale, La France et l'alcool. Déjà, peut-être une réaction par rapport à ce que vous avez entendu sur l'Afrique, Victor Legrand ou...
Ce qu'il vient de dire sur l'Afrique, en fait, il y a à peu près les mêmes critiques qui sont faites en France sur l'action des lobbies alcooliers, on va dire. Souvent c'est des critiques qui sont plutôt faites à l'encontre du vin, parce qu'en France on est plutôt plus axé sur le vin que sur la bière. Le fait que le lobby du vin, par exemple, finance des actions pour sensibiliser les enfants à la culture de la vigne, etc., c'est souvent critiqué par les associations de défense de la santé, etc., qui luttent contre les méfaits de l'alcool. C'est souvent mis en avant aussi. Donc en fait, il y a un peu, on retrouve peut-être à une échelle moindre, d'une manière un peu différente, mais on retrouve à peu près les mêmes mécanismes en fait, en France.
Victor Legrand, on est quoi, 30 ans après la loi Evin, hein, quasiment, la loi de 1990 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Certains disent que cette loi, elle a été complètement détricotée, largement assouplie.
Oui, c'est ce que beaucoup de gens disent. C'est un débat un peu compliqué, puisque c'est un peu ce qu'on démontre dans le livre, les deux parties.
À l'époque, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, par exemple, la publicité est autorisée sur Internet.
Exactement. Hein. Le sujet est un peu complexe. Enfin, la particularité française, c'est que le dialogue se fait assez peu, finalement, entre
les lobbies, les producteurs, les viticulteurs.
L'État, justement. Le dialogue est assez pauvre en France. Et je crois que ça, c'est une petite particularité française. C'est ce qu'on démontre dans le livre. Donc, Donc il y a toujours un peu deux antagonistes en France, c'est-à-dire les pro-alcool, les anti-alcool, comme ça, qui se font une guerre depuis de nombreuses années autour de la loi Evin justement, et qui n'arrivent pas beaucoup à communiquer. C'est un peu, on finit on a fait un chapitre entier sur les lobbies de l'alcool et on finit un peu là-dessus en se disant, on donne pas de message, mais ce serait peut-être pas mal qu'ils discutent un peu.
C'est ça, vous dites, chaque camp s'accuse d'avoir un agenda caché. Les associations sont soupçonnées de maquiller leur volonté d'interdire l'alcool derrière le vernis de la lutte contre les addictions, et le lobby est accusé de promouvoir la modération et l'éducation des jeunes uniquement en fait pour conquérir de nouveaux clients. Quelles sont les méthodes de ces lobbies en France? Comment ça fonctionne exactement? Vous citez beaucoup une organisation qui s'appelle Vin et Société.
Vin et Société, c'est une organisation dans laquelle il n'y a pas énormément de gens, en fait. Il y a 3-4 personnes qui travaillent, mais en fait, c'est des gens qui sont financés par les syndicats viticoles. Donc, ils ont derrière eux, l'industrie, entre guillemets, du vin représente environ 500 000 emplois. Donc, c'est quand même...
Ça, c'est que pour le vin, un demi-million d'emplois.
Que pour le vin, ouais, c'est
un demi-million d'emplois en France.
Ouais. Alors, directement et indirectement, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des gens qui travaillent dans la production, mais c'est en tout cas le chiffre qui est mis en avant par Vin et Société, justement. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que quand on parle de lobby, souvent on a un côté des gens qui travaillent dans l'ombre, qui vont faire des pots de vin aux députés ou des choses comme ça. C'est pas exactement comme ça que ça marche, en fait. C'est-à-dire que justement ce fait-là, le fait qu'il y a un demi-million de personnes qui travaillent directement ou indirectement dans le vin, fait que ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que quand on est un député qui vient d'une région où le vin est l'activité principale, on ne peut pas défendre des lois qui vont à l'encontre du vin.
C'est-à-dire c'est la majorité des départements en France qui produisent du vin.
Ouais,
pas forcément à grande échelle. Vous citez un sénateur, François Patriat, pour bien le citer, qui dit « le vin c'est la France, l'eau c'est la souffrance ».
Ouais. Il fait partie de ces gens qui, eux, ont une position très tranchée sur le vin et sur l'alcool, et qui est en gros la position qui a été reprise par la suite par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit « arrêtez d'emmerder les Français », c'est un peu la position de François Patriat et d'autres sénateurs et députés.
C'est ça, il faut cesser le discours moralisateur contre les ayatollahs de l'alcool. Alors, cette loi Evin, c'est vrai qu'elle a été en partie détricotée, on va pas tout citer, mais effectivement, il y a eu l'autorisation de l'alcool sur Internet en 2009. Il y a eu aussi la loi Macron de 2015, à l'époque, il est ministre de l'économie, et il permet de communiquer sur des contenus qui font référence à une région de production, à un savoir-faire, à un patrimoine culturel, parce que c'est vrai aussi que le vin, c'est tout ça en France, hein, et que donc il faut pouvoir en parler, en tout cas du point de vue des politiques. On a, vous citez aussi très justement sur France Télévisions, il y avait un module, je ne sais pas s'il passe toujours, je crois que c'est fini, mais une minute, un vignoble. Ouais. Donc forcément derrière, on fait quelque part l'apologie du vin. Si on fait l'apologie d'un vignoble, c'est pas pour décorer le paysage français. La vente d'alcool est toujours néanmoins interdite aux mineurs, mais dans les supermarchés, on a quoi comme contrôle au
moment
du passage à la
caisse ?
C'est
pas très appliqué, quoi, c'est sûr.
Voilà. Et puis il faut savoir aussi que pour les jeunes, une bière coûte parfois, parce qu'on va pas, il faut pas forcément parler que du vin, notamment pour les jeunes, hein, une bière, ça peut coûter moins cher qu'un soda dans un café.
Ça coûte moins cher qu'un soda.
Ça coûte moins cher, hein. Pas seulement dans les happy hour, comme on dit.
Non, vous allez en terrasse à Paris.
Comment c'est possible, c'est vrai, que ça coûte moins cher qu'un soda?
C'est une bonne question, mais je sais que c'est moins cher. Parfois, quand je ne veux pas prendre d'alcool et une bière, je veux prendre un soda, et puis je me rends compte qu'en fait c'est moins cher, donc je me retrouve à prendre une bière.
Ouais,
ça me pousse à la consommation.
Y compris qu'une célèbre eau gazeuse, d'ailleurs. Mais quelles sont les méthodes? Alors vous le disiez, les lobbies n'agissent pas dans l'ombre, mais le positionnement des lobbies pro-alcool, c'est de dire mais il faut une consommation modérée, c'est un objet culturel, il ne s'agit pas de le faire disparaître, etc. C'est ça, hein, le positionnement.
C'est le positionnement actuel, oui. C'est-à-dire qu'après...
Difficilement dire qu'ils ont tort.
Non, après avoir lutté justement contre ces formulations qui sont à consommer avec modération, etc., aujourd'hui, il y a eu clairement une évolution, c'est-à-dire que la filière de l'alcool en France promeut des messages de modération. Mais du coup, aujourd'hui, les associations de santé disent « Oui, mais c'est pas la modération qu'il faut promouvoir, c'est-à-dire que l'alcool est potentiellement dangereux pour la santé dès le premier verre. » Et ça, évidemment, c'est là-dessus en fait qu'il y a un débat aujourd'hui en France.
Et c'est-à-dire surtout, que... vous citez un chiffre qui est très intéressant que moi je connaissais pas du tout. C'est Michel Reynaud du fonds Action Addiction qui le donne, hein, qui dit toutes les opérations de prévention menées avec les alcooliers sont détournées. Vin et Société, donc cette fameuse organisation, ce lobby, ne dit rien sur les dommages d'une consommation moyenne ou excessive. Mais surtout, il dit les alcooliers savent que les buveurs excessifs consomment 80% de l'alcool vendu. Donc ça veut dire que finalement tout le monde fait semblant de ne pas voir la réalité. C'est-à-dire que ce qui rapporte réellement, c'est les gens qui boivent trop d'alcool. Et la consommation modérée, elle n'existe quasiment pas.
Bah, elle existe pour, en fait, elle existe pour une majorité de gens. C'est ça le problème. C'est-à-dire que en gros, si on veut schématiser, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est ça. C'est-à-dire que 80% de l'alcool est consommé par 20% des gens. Et donc, 20% de l'alcool est consommé par 80% des gens. Donc, ça voudrait dire que, quand même, une majorité des Français ont une consommation modérée. Mais qu'aujourd'hui, les alcooliers, entre guillemets, ne peuvent pas se passer des gens qui ont une consommation excessive. En fait, c'est un peu ça le problème, et c'est un peu la corde sur laquelle jouent les alcooliers.
Alors néanmoins, la France, c'est quand même ce pays où il est très difficile de ne pas boire, hein, dans un repas d'affaires, dans des milieux professionnels, même si c'est vrai que les réceptions en entreprise, l'alcool a très largement disparu, sous l'impulsion d'ailleurs de la loi Evin. Mais c'est vrai que socialement, on s'interroge quand vous ne buvez pas, non ?
C'est discriminatoire de ne pas boire en
carrément,
France.
Carrément, vous dites.
Ouais, je pense. Ouais. On a commencé le livre, l'introduction, c'est sur les gens qui ne boivent pas en France. Donc on a recueilli des témoignages, mais par choix. Puisque ça pouvait être... je pense qu'en France, on a accepté le fait que soit par religion ou par maladie, on ne pouvait pas boire.
Mais ceux qui ne boivent pas par choix... J'ai souvent entendu ce conseil dans des repas professionnels. Laisse-toi servir un verre, tu n'y touches pas, mais surtout ne refuse pas qu'on te serve un verre.
Exactement.
Comme ça, on ne te pose pas de questions.
Comme ça, on ne pose pas de questions. Ne pas boire en France... Alors, ça dépend des alcools, on va parler surtout du champagne ou du vin. C'est tout de suite, on vous pose la question, qu'est-ce qui va pas, pourquoi. Il y a toujours ce truc en France où on se dit que le vin ou le champagne, c'est pas de l'alcool. Par exemple, quand vous fêtez quelque chose, c'est refuser de
sous-entendu parce que c'est très occasionnel.
Parce que c'est très occasionnel, et puis c'est culturel de fêter quelque chose par un verre de champagne, par exemple.
Alors, ceci dit, Elisabeth nous pose ce message de Montréal. Elle dit, à chaque fois que je décline un verre d'alcool, on me demande si c'est pour des raisons religieuses. Non, je n'aime pas l'alcool, j'aime pas le goût amer que ça a. Et en plus, j'ai trop peur d'être bourré et de perdre le contrôle de mes actes et paroles. Et puis Vincent aussi, il est à Moundou, la capitale économique du Tchad, dans un pays musulman. Si tu ne consommes pas d'alcool, tu n'es pas respecté, tu n'as pas d'amis, tu es vu comme une personne non civilisée. C'est tout de même assez étonnant. Allez, vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Vous dites dans votre livre, en France, on parle plus de vin que de foot.
À table. Ouais. C'est assez étonnant, mais c'est justement, je crois que c'est Vin et Société qui a fait une étude sur la question, et c'est ce qu'ils ont trouvé. Ouais, on parle beaucoup de vin, on parle évidemment beaucoup de gastronomie en mangeant en France, mais et donc du coup, par la force des choses, on parle pas mal de vin et plus de vin que de foot. Ouais, mais ça, en fait, c'est ce qu'on disait. Hein, c'est un sujet. Tout le monde a quelque chose à dire, y compris et même peut-être surtout les gens qui ne boivent pas, quoi.
Alors on va bien sûr passer la parole à des auditeurs. Il faut rappeler que ceci dit, la consommation de vin, elle ne fait que baisser depuis plusieurs années en France. Hein.
Ouais. Bah, la consommation de vin et la consommation d'alcool en général, c'est-à-dire qu'en 1961, on buvait l'équivalent de 26 litres d'alcool pur par personne et par an. Aujourd'hui, on en est à 11,7, donc ça baisse, ça reste évidemment un gros problème de santé publique. Ouais. Il y a beaucoup de morts tous les ans à cause de l'alcool, mais ça baisse continuellement depuis une cinquantaine d'années.
Ouais. 10% des Français n'ont jamais bu d'alcool, 24% des Français n'ont pas bu dans les 12 derniers mois, donc moins d'un quart des Français n'ont pas bu dans les 12 derniers mois. Et puis, effectivement, vous le disiez, 13% des décès imputables à l'alcool en France, 13% en France et 3% en Italie. Ah, le pays voisin qui produit aussi du vin, j'ai dit ça à une personne de mon entourage qui m'a répondu, ça c'est très révélateur, qui m'a dit oh, c'est normal, les Italiens ils n'ont pas de bon vin. C'est extraordinaire quand même, il n'y a qu'en France.
Ouais, c'est faux en plus, mais...
non, mais...
Non, c'est étonnant et c'est.
On boit beaucoup plus quand même en France.
Mais c'est assez difficile à expliquer effectivement, parce que l'Italie, pour le coup, s'il y a bien un pays qui ressemble à la France, c'est l'Italie.
Eh oui.
Sous pas mal d'aspects. Mais effectivement, je crois peut-être que je me trompe, mais que la consommation de vin est deux fois. En Italie, on boit deux fois moins de vin qu'en France, il me semble. Donc évidemment, ça se ressent sur les chiffres de mortalité. Après, il ne faut pas exclure non plus le fait que dans chaque pays, le décompte est fait de manière un peu différente.
Vous avez raison, hein, l'Italie, on est à 7,6 litres et on est à 11 litres 7, on est quasiment moitié moins, en effet. Allez, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui nous appelle de Paris. Bonjour Julio.
Bonjour Emmanuel Bastille.
On vous écoute. Oui, moi c'est Bastide, bonjour, c'est pas la prise de la Bastille, mais ça pourrait.
Pardon. Bonjour 7 milliards de voisins, bonjour Kinshasa.
Bon.
Alors, je suis un consommateur régulier de vin chaque soir. C'est-à-dire que j'ai découvert que la France avait quelque chose de plus, il faut le dire. Le vin, c'est comme la sape chez les quinois.
Ouais.
Et donc, de temps en temps, je consomme le vin le soir. Mmh. Et parfois, ça m'arrive de sortir avec des amis.
Ouais. Alors, quand même, juste petite parenthèse, la sape, hein, c'est-à-dire le look, les vêtements, ça n'a jamais tué personne jusqu'à présent.
Absolument pas. La sape apporte la joie de vivre dans la société.
Bon, donc ça ne vous empêche pas de boire un petit verre tous les soirs. Et alors, qu'est-ce que vous constatez, alors vous, un voisin quinois installé en France?
Justement, quand je sors avec des amis les soirs, nous allons à Saint-Paul, Bastille, La République, avec des amis, Laura peut témoigner. Je vois à travers les personnes qui m'entourent, dès qu'ils consomment pas seulement le vin, l'alcool qui est maintenant moins cher que la cerise et le fraise, donc ils se mettent en scène, soit ils dansent sur les tables, soit ils vont draguer les filles, comme quoi l'alcool peut parfois aider à draguer, il faut le dire, et donc... ils font indirectement une publicité de l'alcool.
Ouais.
Nous avons ici en France cette interdiction de faire la publicité à la télévision de l'alcool, mais les jeunes eux-mêmes...
C'est ça, vous dites qu'il n'y a pas besoin de pub, ce sont les jeunes qui s'en chargent, finalement. Merci beaucoup, Julio, de nous avoir appelés. D'ailleurs, c'est vrai que dans votre livre, à tous les deux, Thomas Pitrel et Victor Legrand, vous avez interviewé beaucoup d'artistes, d'intellectuels, d'écrivains, des gens qui font du cinéma, des chansons, et qui disent « mais moi, je ne peux pas créer, je ne peux pas faire de films, je ne peux pas faire de chansons si je ne bois pas. » On pourra d'ailleurs là-dessus vous enquêter bien sur les lobbies, mais on pourra vous reprocher aussi sur ces chapitres-là quelque part, de faire aussi l'apologie de l'alcool d'une certaine manière, Thomas Pitrel.
Alors ils disent pas qu'ils peuvent créer, ils ne peuvent pas créer en buvant. Par contre,
un peu quand même.
Non, ils disent à peu près tous que dès qu'ils boivent en créant, c'est nul, le résultat est mauvais. Par contre, l'alcool fait partie de leur œuvre et de leur biographie. En gros, les artistes qu'on a interrogés ont tous à peu près la même façon de procéder, c'est-à-dire que l'alcool est très présent dans leur vie, ils racontent leur vie, donc ils racontent des scènes d'alcool. Par contre, l'acte qu'on pourrait croire, c'est-à-dire l'artiste un peu maudit qui est obligé de boire énormément pour pouvoir sortir ses plus belles phrases, ses plus belles chansons, ses plus beaux refrains, ça c'est un mythe. Tous les artistes disent on ne crée pas en buvant. Par contre, l'alcool peut être comme...
Par contre, ils boivent tous pas mal quand même, vous avez interviewé quand même.
Ils boivent tous pas mal.
Bon, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Joséphine qui nous appelle de Boston. Bonjour Joséphine.
Alors, bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
Je voulais dire ceci. Moi, je vais parler de... je vais comparer la consommation de la bière ou bien la production, surtout la consommation d'ici aux États-Unis... par rapport en Afrique, et surtout du pays là où je viens, de Congo, République démocratique. Ce que j'ai constaté, ici aux États-Unis, il y a des villes qu'on dit des villes dry, sèches, là où on ne consomme pas, on ne produit pas, on ne vend pas la bière.
Ouais.
Si vous avez besoin de la bière, vous allez dans une autre ville.
Sous l'effet d'une réglementation?
Oui, c'est une réglementation de la ville. La mairie dit que dans notre ville, on ne va pas vendre la bière. Si vous voulez la bière, vous allez dans une autre ville. Vous amenez, mais vous devez consommer modéralement. Et puis ici aux États-Unis, la plupart de la bière, ça se prend dans des barbecues. Mm. Hein, quand on fait des barbecues, on prend beaucoup de bière.
Oui.
Mais quand vous allez dans des bars, dans des boîtes, il y a les policiers dehors parce que vous devez conduire. Quand vous buvez, vous sortez, on vous regarde.
Très surveillé en effet, effectivement, l'alcool au volant. Merci beaucoup Joséphine de nous avoir appelés. On part à présent en Corée du Nord. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour, moi c'est la Corée du Sud, mais
pardon, ma langue a fourché, j'avais bien écrit, je suis navrée. Vous êtes bien en Corée du Sud, Frédéric Ojardias, vous êtes notre correspondant à Séoul. Et on vous appelle parce que bien sûr on a envie de savoir quelle est la place de l'alcool dans la société sud-coréenne.
Oui Emmanuel, en fait c'est une place qui est énorme, les interactions sociales en Corée, elles sont très hiérarchisées, très codifiées, et l'alcool est vu comme un liant social qui permet de relâcher la pression. Une étude il y a quelques années montrait que les Coréens boivent en moyenne près de 14 verres d'alcool fort par semaine. C'est deux fois plus que les Russes. La boisson fait notamment partie intégrante du monde du travail. C'est ce que les Coréens appellent « reishik », sur l'injonction du patron. Tous les collègues vont manger et boire ensemble, ou plutôt ils vont se saouler ensemble, parce que c'est là le vrai objectif. Refuser un verre de soju, la liqueur traditionnelle, un verre tendu par son chef, c'est vu comme un affront. Et on boit ensemble pour parler à cœur ouvert, pour tisser des liens. Mmh. Et c'est pour ça que les types en costume ivre-mort titubant dans les rues ont longtemps fait partie du paysage nocturne de Séoul. En entretien d'embauche, il était même courant de demander à un candidat combien de bouteilles de soju il est capable d'absorber. Et il y a une telle tolérance envers l'alcool ici que les juges ont longtemps considéré l'ébriété comme une circonstance atténuante en cas de crime, y compris en cas de viol.
Et est-ce que c'est en train de changer en Corée du Sud, Frédéric Ojardias ?
Oui, parce que cette culture du reishik, vous en doutez, elle pose d'énormes problèmes. Et les Coréens, en particulier les plus jeunes, ont de moins en moins envie de se ruiner le foie et la santé pour faire plaisir à leur patron. En 2017, l'alcoolisme en Corée faisait 13 morts par jour en moyenne. Il a un coût évalué à 7,5 milliards d'euros par an. La culture du reishik constitue aussi une discrimination contre les femmes parce qu'elles sont moins susceptibles de boire. Elles ne sont souvent même pas invitées à ces sessions alcoolisées avec leurs collègues masculins. Et en fait, elles se retrouvent ainsi privées de ces réseaux informels d'échange d'informations et de promotion professionnelle. Mais la situation s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Un changement qui est en partie venu des grandes entreprises parce que celles-ci ont mis en place des règles drastiques pour mettre fin à ces cuites institutionnalisées et pour empêcher les supérieurs d'obliger leurs subordonnés à boire. Mmh. Samsung, le géant d'électronique, a ainsi instauré il y a 5 ans la règle dite du 1-1-9, ce qui veut dire un seul type d'alcool, un seul bar ou restaurant et retour à la maison à 9h. Les universités aussi ont pris des mesures en ce sens.
Ouais, ça diminue forcément la consommation. Et comment a évolué ces derniers temps la réglementation ? Qu'est-ce qui a changé ?
Alors la loi aussi, elle change. Maintenant, les publicités pour l'alcool sont interdites à la télévision de 7h à 22h, c'est-à-dire quand les enfants sont devant les écrans. C'est interdit de vendre de l'alcool à un mineur. Aussi, les vérifications d'identité ne sont pas systématiques. Et puis à partir de l'année prochaine, les célébrités ne pourront plus faire de la réclame pour des boissons alcoolisées. Des zones sans alcool seront aussi instaurées autour des écoles, des hôpitaux, des parcs. Mais le chemin est encore long. On peut toujours acheter du soju pour un prix équivalent à celui d'une bouteille d'eau. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans ces supérettes qui sont omniprésentes en Corée. Et puis la pression sociale pour boire reste forte. On parle là de pratiques sociales, culturelles, qui sont ancrées depuis le Moyen-Âge, comme le montre d'ailleurs un excellent recueil intitulé « Boire sans façon », qui réunit des traductions de plusieurs textes, parfois très très anciens, qui sont dédiés à l'alcool. Changer les mentalités prendra donc du temps.
Merci Frédéric Ojardias, Thomas Pitrel, Victor Legrand. C'est vrai que chez nous aussi, hein, il y a énormément de textes relatifs à l'alcool. Il parlait de la situation des femmes qui sont très largement exclues de ces pratiques en Corée du Sud. Hein. Est-ce qu'en France, vous êtes questionné sur à la fois les femmes en tant que consommatrices d'alcool et puis également dans les milieux de production de boissons alcoolisées?
Ouais. Ben, on a fait un chapitre entièrement consacré à la place des femmes dans le monde de l'alcool. On aurait bien aimé ne pas le faire, en fait, ce chapitre. Ça aurait été, une fois de plus, parler des femmes en tant que femmes et pas en tant que citoyenne française. Mais on s'est rendu compte qu'en interviewant à peu près 200 personnes pour ce livre, on avait du mal à interviewer des femmes pour parler de la question de l'alcool, notamment des artistes dont vous parliez. On a contacté énormément d'artistes femmes qui nous disaient, ben, j'ai un peu de mal à parler de mon rapport à l'alcool, de m'afficher quelque part à côté de l'alcool. Donc on a décidé de faire un chapitre entièrement consacré à ça, que ouais, Thomas va développer.
Ouais, ça pose un vrai problème pour les femmes en termes d'image sociale.
Bah ouais, et encore aujourd'hui, c'est ça qui est assez étonnant. Alors il y a quand même dans le chapitre qu'on fait, il y a quelques personnes qui nous disent qu'il y a une évolution. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, alors que vraiment, en commençant à travailler sur ce livre, on pensait que c'était un peu une question du passé. Justement, on avait lu pas mal de choses sur le fait que les femmes, enfin la consommation des femmes se rapproche un peu de celle des hommes. Il y a une homogénéisation. Mais en fait, dans la société, dans les discussions, dans les débats, ça reste un tabou. Et on sent que les femmes, à la fois du côté de la consommation et du côté de la production, y a encore une question qui se pose par rapport à leur rapport à l'alcool, et ce qui nous a beaucoup étonné en faisant le livre.
Vous nous le disiez, bon, les lobbies sont omniprésents en France. Vous expliquez d'ailleurs bien dans votre livre que grosso modo, enfin non, c'est pas vous qui l'expliquez d'ailleurs, ce sont les anti-alcool qui disent le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Élysée est pro-alcool, et donc pour nous c'est très difficile. Hein, je parle des associations anti-alcool. Au niveau de l'Union européenne, de la Commission, du Parlement européen, est-ce qu'on s'intéresse à informer davantage le consommateur? Il me semble que sur l'étiquetage, à l'heure actuelle, on en est où sur la législation sur l'étiquetage du vin, par exemple?
Il y a un fait qui est assez étrange et qu'on a du mal à expliquer, mais qui est le fait que n'importe quel aliment, si on achète de la nourriture, il y a la composition est indiquée, et ça c'est une directive européenne qui date d'il y a quelques dizaines d'années. On est obligé d'écrire la composition d'un aliment, et ça ne vaut pas pour l'alcool. Et ça, c'est...
Sur l'alcool, on indique quand même le taux d'alcool. Et
on indique le taux d'alcool, mais on n'indique pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, par exemple, ça, c'est un grand cheval de bataille aussi des associations.
On n'indique pas les sulfites, des choses comme ça.
Des associations, c'est-à-dire qu'on ne met pas la composition du vin. C'est-à-dire que les gens, du coup, pensent qu'il n'y a que du raisin dans le vin, alors qu'en fait, il y a énormément d'autres produits qui sont rajoutés au fil de la conception.
Pourquoi les vins sont plus alcoolisés qu'avant ?
Parce qu'il fait plus chaud. On a fait justement un chapitre sur écologie. Enfin, on se demandait comment on pouvait aborder la question de l'écologie aujourd'hui via l'alcool. Donc on a fait un chapitre sur réchauffement climatique, enfin dérèglement climatique et vin. Et en gros, pour faire simple, il fait plus chaud. Donc les vins français sont plus forts. Disons que les vins du sud sont plus forts. Comme il fait plus chaud, on commence à faire du vin dans des régions plus nordiques du pays. Donc il peut avoir des gagnants et des perdants du dérèglement climatique en ce qui concerne le vin. C'est-à-dire que pour le nord de la France ou la Bretagne, c'est une bonne chose. Il y a même des Français qui vont en Angleterre aujourd'hui faire du vin pétillant, puisqu'on ne peut pas dire champagne, mais qui est une
appellation contrôlée. Est-ce que ça ne va pas perdre le vin à terme? Il y a un producteur de vin que vous citez qui dit, qui s'appelle Vincent, au-delà d'un certain taux d'alcool situé aux alentours de 13 degrés, le vin devient un somnifère plus qu'un excitant. Il perd ainsi son rôle social, celui qui délie les langues au cours du repas. Est-ce que finalement, ça ne va pas perdre l'intérêt social du vin dans un pays comme la France?
Alors, là, ça, avant que le vin perde son intérêt social, je pense qu'on sera, nous trois, plus de ce monde. Mais non, il ne faut pas non plus dédramatiser. Le territoire, la carte du territoire viticole français est en train de changer. Mais de là à ce que... Donc, il y a certains vins qui commencent à dépasser 13 degrés. Vincent Pugibet, que vous citez, a d'ailleurs des techniques pour faire baisser le taux d'alcool. Donc, il y a des gens qui se mobilisent, ce n'est pas le problème. C'est plutôt le... Je pense pas qu'il faille être aussi alarmiste. Par contre, le territoire est en train de changer.
Enfin, alarmiste ou bonne nouvelle, tout dépend du terrain où on se place.
Bien sûr, mais comme lui est quelqu'un qui produit du vin, pour lui c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être que pour d'autres ça sera une bonne, puisqu'ils en boiront plus et ça pourrait être une solution sanitaire. Mais de là à ce que le vin devienne perdre son intérêt social et qu'on s'endorme tous à table en buvant une bouteille de vin, je pense qu'on est un peu tranquille.
D'autant qu'il y a eu un peu au-delà du réchauffement climatique, il y a eu une question de goût aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les vins préférés, les vins de Bordeaux, etc., étaient des vins qui étaient plus forts que ceux d'avant.
En tout cas, il faut absolument vous lire en toute objectivité, parce qu'on trouve vraiment du pour et du contre, et c'est intéressant de voir aussi comment les consommateurs sont quelque part aussi manipulés. Tournée générale, La France et l'alcool, c'est publié chez Flammarion. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. Dans quelques instants, on va changer de sujet et de pays. On va partir pour le pays où l'indice de bonheur y est le plus élevé de la planète, et d'ailleurs j'ai vérifié, on y boit nettement moins qu'en France. Où allons-nous? Réponse, ça sera dans quelques instants, ça sera juste après Jeanne Haddad. The thirsty earth soaks up the rain and drinks and gapes for drink again. The plants suck in the earth and are with constant drinking fresh and fair. The sea itself, which one would think should have but little need of drink, drinks 10,000 rivers up, so filled that they overflow the cup. The busy sun, and one would guess by his drunken fiery face no less, drinks up the sea, and when has done, the moon and stars drink up the sun. They drink and dance by their own light, they drink and revel all the night. Nothing in nature so profound but an eternal echoes round. Fill up the bowl and fill it high, fill all the glasses, therefore why should every creature drink but I? Why man or morals, tell me why? Fill up the bowl and fill it high.
Eli aloitan suomen kielellä. Mitäköhän mä sanoisin? Kertoisin sisusta. Eli sisu on kirjani teema. Haluatko lisää? Joo.
Vous reconnaissez cette langue? Non, peut-être pas. C'est du finnois.
Du finlandais?
Ouais, eh ben exact. Finnois, c'est ça. La Finlande est le numéro 1 dans l'indice du bonheur selon le classement mondial des Nations Unies. La France est 23e, hein, quand même, juste à titre de comparaison. C'est peut-être pour ça qu'on boit nettement plus. Et en Finlande, pourtant, il fait jour que 4 heures l'hiver, 21 heures l'été, certes. Charlie Dupuis a rencontré la journaliste finlandaise Katia Panzar. Elle vient de publier un livre sur les clés de ce bonheur nordique. Les Finlandais sont des gens heureux. Elle est née dans ce pays scandinave, elle l'a quitté à l'âge de 3 ans avec ses parents pour vivre au Canada. Puis 30 ans plus tard, elle a décidé de revenir, de s'installer à Helsinki. Au départ, simplement pour un an ou deux. Enfin, ça, c'était le projet initial.
Au début, j'avais envie de retourner en Finlande pour vivre un peu de temps en Europe, réviser mon finnois et redécouvrir mes origines finlandaises. Tout ce que j'ai découvert là-bas a été vraiment une surprise. Je suis tombée amoureuse du mode de vie. J'ai commencé à avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Tout d'un coup, je pouvais marcher dans la nature tous les jours, je pouvais aller au travail en vélo, je n'avais pas besoin de faire un long trajet en transport ou de conduire une voiture. Et puis, la mer Baltique entoure Helsinki, donc dans la ville, vous avez le littoral et plein d'îles tout autour. Vous avez la mer partout quand vous êtes dans le centre-ville.
Vous commencez votre livre par une baignade, en fait, dans la mer, qui est à 1 degré. On a froid pour vous quand on lit ces lignes-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de ces bains?
La première fois que j'ai testé ces baignades d'hiver ou ces baignades glacées, comme on les appelle, je me disais, ok, il faut que j'essaie, tellement de gens le font ici. Mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Une amie m'a emmenée et je me disais, allez, ce sera fait. On est allé en plein milieu de l'hiver, il faisait moins 10 degrés et la température de la mer était, oui, à 1 degré. Cette amie m'a prêté son bonnet et ses gants. Elle m'a donné des instructions. Elle m'a dit que je devais rentrer doucement dans l'eau pour la première fois et cela m'a fait mal. Cela m'a fait vraiment mal. C'était comme des aiguilles qui piquaient ma peau. Pourtant, je suis juste rentrée dans l'eau rapidement et très vite ressortie. Je ne suis même pas descendue très bas sur l'échelle. C'était fou. Je portais un maillot de bain, j'étais presque dans le centre d'Helsinki sur une jetée. Eh bien, à ma grande surprise, quand je suis sortie de l'eau et qu'on s'est mis à marcher en direction des vestiaires et du sauna, j'ai commencé à ressentir cette sensation de picotement. Toutes les parties de mon corps qui avaient été dans l'eau, tout d'un coup, je les sentais dans un état fantastique. Elles n'étaient plus du tout froides. J'avais chaud. Et je me disais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Attends là, ça me fait me sentir vraiment bien. Je me suis assise dans le sauna, le temps de me réchauffer, et puis j'ai eu envie d'essayer à nouveau dans la foulée. Je suis retournée dans la mer à peine 5 secondes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir accro. Accro à ce hobby qui me permet de me libérer de tout mon stress, de toutes mes douleurs physiques, émotionnelles, de tout, comme si tout ça restait dans l'eau. Et j'en sors en étant une nouvelle personne.
À quelle fréquence vous prenez ces bains glacés ?
Si je suis à Helsinki et que mon emploi du temps le permet, en hiver, j'y vais tous les jours. Je reste dans l'eau à chaque fois entre 30 secondes et une minute, mais là, je suis arrivée à un point où je peux lâcher l'échelle et je peux nager, même faire une petite boucle. Si j'ai eu une journée de travail stressante et que je peux arriver à le caser, j'y vais le matin et le soir, deux fois dans la journée.
Mais vous ressentez toujours cette sensation de petites aiguilles qui vous piquent ?
Oui, toujours, mais ce n'est plus aussi dur et on s'y habitue. En fait, votre corps crée une sorte de résistance, de résilience face à l'eau froide. Et puis, si vous avez des douleurs musculaires, des courbatures, cela fait du bien. Beaucoup de gens prennent des bains glacés pour ça. Mais il ne faut pas mettre la tête dans l'eau, ce n'est pas recommandé.
Ce qu'on apprend aussi dans votre livre, c'est qu'il y a 3 300 000 saunas pour 5 500 000 habitants en Finlande, donc un nombre énorme de saunas.
Je pense que parce que le sauna est vraiment...
Oui, le sauna est une institution finlandaise. Dans les temps anciens, il y a plusieurs milliers d'années, c'était des lieux où les bébés naissaient et où les corps des défunts étaient préparés avant les funérailles. Et encore aujourd'hui, souvent, quand les gens construisent un cottage ou une maison, la première question qu'ils se posent, c'est « Où ira le sauna ? Où va-t-on le construire ?» C'est un endroit où l'on va pour se détendre, c'est un endroit où on ne peut pas apporter son téléphone portable. Et dans certaines entreprises, ou dans la plupart des immeubles, par exemple celui dans lequel je vis, il y a un sauna collectif et tous les mardis soirs, c'est au tour de notre famille de pouvoir en profiter.
Est-ce que vous n'avez pas peur de donner une image très idyllique de ce pays, de la Finlande, qui oublie aussi une certaine forme de précarité et puis voilà, des défauts aussi de cette société ?
C'est pas un pays idéal, non. Il y a aussi des inquiétudes sur le développement durable ou sur les fonds pour l'éducation, des problèmes qui touchent de nombreux pays dans le monde. Mais la Finlande est aussi, par exemple, le pays le plus lettré du monde. Selon une étude de 2016, la lecture fait partie de la vie quotidienne des Finlandais. Il existe un réseau incroyable de bibliothèques publiques. À Helsinki, on dit que ce sont comme les salons de la ville. On ne vient pas seulement pour y emprunter des livres. On se rend dans ces bibliothèques pour socialiser, participer à des activités ou des ateliers. Cela donne une idée de la place des livres et de la lecture dans la société finlandaise. Le système éducatif est aussi très réputé et très bien placé dans les classements mondiaux. C'est un système qu'on vient observer, décortiquer. C'est ce que font de nombreux experts en éducation pour voir ce qu'ils peuvent en apprendre.
Voilà, Katja Panzar, elle signe « Les Finlandais sont des gens heureux ». Et vous, Thomas Pitrel et Victor Legrand, vous signez « Tournée générale ». La France et l'alcool, on va bien le préciser, hein, l'alcool ne sert pas à se réchauffer quand il fait froid. Ça s'est prouvé, ça a été expliqué par les médecins. C'est publié chez Flammarion. Mais vous n'êtes pas posé cette question, finalement, Thomas Pitrel et Victor Legrand. Probablement aussi parce que vous n'avez pas envie, dans votre livre, de détruire la culture de l'alcool et du vin. Mais vous n'êtes pas demandé si la France buvait finalement quand même pas mal hein, par rapport à d'autres pays, même si c'est moins que l'Europe de l'Est, il n'y a pas un problème quand on voit que la France est 23e sur l'indice du bonheur, la Finlande numéro 1, non Thomas Pitrel.
On ne s'est pas forcément posé la question du lien entre le bonheur et la consommation d'alcool. Après, on s'est posé la question quand même de savoir pourquoi on boit autant d'alcool et voilà, il y a une histoire c'est quelque chose de culturel depuis très longtemps. Les vignes sont arrivées il y a 2000 ans en France, ensuite ça a grandi et ça a même été encouragé par l'État à une certaine période jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à peu près, donc c'est quelque chose qui remonte à des centaines d'années dans la culture française.
Et d'ailleurs au moment de la crise des Gilets jaunes, on a dit le drame c'est que les cafés ont disparu dans les villes, ouais. Les petites villes ou les villages et qu'il n'y a plus de lien social. Voilà, en tout cas à retrouver votre enquête. Merci à tous les deux, merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianus, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la gratuité. A-t-elle un avenir dans un monde marchandisé ?